With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
C'est marrant que tu me dises ça parce que je voulais aussi qu'on parle du storytelling de LinkedIn.
Ah.
Forcément, puisque après toutes ces vannes sur la Suisse que t'enchaînes, qui fait à peu près, je pense, la moitié de ton passage, j'ai pas compté, mais ça doit être ça.
Ouais, je pense que ça fait 40%, un truc comme ça. Ouais.
Et après, t'as tout un truc où t'expliques que t'as pas besoin de chercher du travail, mais que pour le plaisir, tu réponds à des annonces sur LinkedIn pour voir jusqu'où les gens vont. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, tu l'as déjà fait vraiment ?
Honnêtement, ouais. En fait, le truc, c'est que.
Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Wari Nichen. Bonne écoute.
Merci, bonsoir Montreux, est-ce que ça va?
Oui.
Très très cool, je me présente, je m'appelle Wari Nichen, moi je suis nouveau en Suisse, j'habite ici depuis 3 ans et je découvre encore le pays. Et, avant de venir, on m'a dit tu vas voir quand tu vas arriver en Suisse, les Suisses ils sont très cool, très calmes, très gentils et c'est vrai, sauf dans une seule situation, quand vous gagnez contre la France. J'ai pas reconnu la Suisse, des gens dehors en train de klaxonner toute la nuit pour fêter un 8e de finale. Mais qui fête un 8e de finale? C'est que vraiment t'as pas confiance dans ton équipe, il fallait fêter tout de suite quoi. Et je comprends pas cette haine que vous avez contre les Français. Alors je sais que quand l'équipe de France joue contre une équipe africaine, il y a un passé colonial, il y a des sujets chauds sur l'immigration, donc il y a une petite tension. Mais vous, la France, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Même en immigration, vous avez le meilleur de l'immigration. Ils viennent travailler ici en journée et le soir, ils rentrent dans leur pays, quoi.
Parce que les Suisses, quand tu parles avec eux, tout de suite, ils te disent « Ouais, les Français, les frontaliers, machin. » Et en fait, le premier truc, c'était de dire « Mais pourquoi vous vous plaignez de ça alors que... vous avez la meilleure version, il vient travailler, il repart, toi.
Ouais.
Parce que la vie ici, elle est intéressante. Si tu regardes tu sais, la vie à Genève ou en Suisse, elle est intéressante. Donc, idéalement, tu voudrais habiter ici et travailler en France. Sauf que financièrement, ce n'est pas intéressant. Mais pour l'artistique, c'est malheureusement ce que font beaucoup de choses. Beaucoup de gens, comme Charles, Cominec.
Charles Nouveau, Alexandre Cominec.
Jusqu'à un moment où tu repars là-bas. Donc,
Parce que tu as habité ici. Tu habites ici, en fait.
J'habite ici.
Tu habites à Genève,
presque à temps partiel parce que je suis souvent à Paris pour les shows. Mais sinon, en gros, je fais 50-50, quoi. Genre, début de semaine, je suis là. Les week-ends, je suis à Paris.
T'as une vanne là-dessus, d'ailleurs.
Exactement. Qu'on va entendre maintenant.
Bah, par exemple, ça dépend.
Du coup, moi, j'habite ici, à Genève, mais je travaille toujours en France. Je suis le seul qui fait ça. Le fisc m'appelle Sugar Daddy.
C'est ça aussi, parce que T'es pas venu en Suisse pour faire du stand-up, enfin, je veux dire, personne fait ce move là.
mes moves ils sont jamais clairs. C'est-à-dire que j'ai commencé au Canada et quand ça a commencé à prendre, je suis parti en France, j'ai repassé tout de zéro. Après en France, pareil, je fais une émission, ça commence à avoir des.
C'était laquelle, Jamel ?
C'était Jamel, ouais. Alors, Jamel, à l'époque, quand tu faisais une émission qui marchait, ça te remplissait ta salle pendant 3 mois.
Ouais.
Et à ce moment-là, je pars aux États-Unis. C'est vraiment, dès que ça marche, je me barre, quoi. C'est, j'ai l'impression, j'aime bien le...
Là, t'habites en Suisse.
Là, je suis en Suisse, voilà.
Dès que ça marche, je me barre, je sais pas où, au Maroc.
Dès que je commence à faire des grosses salles, je dis, ah, faut que je parte au Burkina Faso, là. Faut un challenge.
J'essaie de comprendre plein de choses sur vous. Par exemple, il y a un truc que je comprends pas. Parfois, ici, t'es à une intersection et le feu est rouge, mais sur les 4 coins de l'intersection. Et ça dure genre 3 minutes. Et personne ne traverse. Moi, je pense que c'est un piège de l'immigration pour savoir qui est suisse et qui ne l'est pas. Je pense que si tu traverses, ils peuvent te le reprocher le jour de la naturalisation. Ils vont dire « On t'a vu le 29 septembre. T'es pas un des nôtres. Retourne à Annemasse. »
Et je suis content de t'avoir sur ce podcast parce que il y a plein de Français, tu vois, qui viennent, ou même des Suisses qui viennent, et souvent il y a une vanne sur la Suisse pour sympathiser avec la salle de Montreux, parce que tu joues en Suisse et tout, etc. Ouais. Mais j'ai jamais vu autant de vannes sur les Suisses d'un coup, tu vois. Normalement, c'est juste une vanne et ensuite un petit pirouette qui permet de passer à une prémisse, mais tu vois, genre là, c'est vraiment.
Moi, j'ai vraiment eu limite le problème inverse, c'est que j'avais tout un passage sur la Suisse. Ouais. J'ai longuement hésité sur est-ce que je fais genre tout sur la Suisse ou est-ce que je vais juste. Tu vois, quelques vannes, mais je trouvais que c'était important de faire un peu de matière sur la Suisse, vu que ça se passait ici et que voilà, j'ai vécu ici, et ça me faisait bizarre de venir et parler que de sujets qui ne les concernent pas ou même, tu vois, de ne pas adresser le truc.
Dans certaines régions, vous demandez aux gens d'apprendre le suisse-allemand. Pourquoi ? Personne ne comprend le suisse-allemand. Même eux, ils comprennent pas, ils font semblant, c'est sûr. Juste pour énerver les francophones. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai mis la radio dans la voiture, et je mets la radio et j'entends... Je dis, est-ce qu'elle est sur la bonne fréquence ? Faut que je cherche encore. Je vais à Berne, j'ai ma table dans un café, le serveur, il vient, il parle en suisse allemand. Déjà, ça m'énerve. Donc je demande le menu, il me ramène le menu, c'est écrit en suisse allemand. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'anglais. Alors moi, ça me frustre, je fais... Il m'a ramené un jus de banane.
Ouais, en fait, je trouvais que les vannes que tu faisais sur la Suisse, elles étaient vraiment plus recherchées que la majorité des vannes qu'on va avoir sur l'argent, le chocolat et tout à chaque fois que les gens viennent ici, tu vois.
Ouais, ouais.
Et du coup, j'ai vu un truc sur toi. C'est un humour à l'image du business qu'il engendre, très très fin.
Ça, en fait, c'était ils te disent, ouais, il faut trouver une bio, une description, c'est quoi ton humour, c'est un machin. Et j'ai trouvé que ça correspondait bien tu vois, à l'écriture et au résultat de l'écriture. Et du coup, c'était genre un peu essayer de faire les deux. Parce que les gens te disent, ouais, c'est très fin, bah ouais, mais ouais. Même financièrement, c'est très fin. Et donc, ouais, non, ça, c'était tu vois, le genre de bio. Mais sur la Suisse, pareil, je voulais pas faire des trucs un peu. En fait, moi, j'aime toujours essayer de jouer pour le public et qu'ils ne se disent pas, on vient juste pour faire des blagues sur les clichés connus.
Ouais.
Même si parfois ça peut être des références et c'est bien de les utiliser. Mais j'aimais bien jouer avec le public. Et c'est des blagues que j'ai testées ici en Suisse sur des plateaux et je voyais que tu vois, ça choquait personne et qu'au contraire, c'était d'aller toujours plus loin pour essayer de trouver. Au moins un angle original, même si la référence est connue et que parce qu'on a besoin de références, le chocolat, l'argent, machin, mais de au moins faire l'exercice d'aller le plus loin possible, quoi.
Ouais.
Vous êtes tellement riche, quand vous parlez, vos expressions viennent du tennis. Vous dites ça joue service. Redescendez un peu là.
Il y a pas mal d'artistes que je connais pas, dont toi on se connaissait pas, tu vois, ouais. Avant de venir au festival, et j'avais envoyé un message à Thomas Wiesel pour me dire un peu ce qu'il pensait des gens et tout. il m'a dit sur toi.
J'ai pas le temps.
Parcours atypique. parcours atypique de vie. Et du coup, je me demandais ce que c'était. Et c'est parce que tu as un doctorat en ingénierie télécom.
Oh là, mec. c'est. Non, j'ai vraiment commencé. Moi, je n'ai pas fait, tu vois, le parcours de « Ah, je m'ennuie au travail et je dois faire autre chose. J'ai un burn-out. » Honnêtement, moi, je m'éclatais vraiment au travail. J'aimais ce que je faisais. C'est juste que j'avais toujours eu cette envie de faire, d'explorer le monde artistique. Et en fait, c'est arrivé à un moment où j'ai dit « Il faut vraiment que je fasse le test maintenant, sinon je vais jamais le faire et je vais avoir le regret toute ma vie. » Et j'ai fait cette bascule-là. Et les études, c'était, tu sais, mes deux parents étaient profs, ouais. Ils ont tout le temps été orientés sur faut faire des études le plus possible, le plus loin possible. Et je le regrette pas, tu vois, ça m'a donné, ça a construit aussi ma façon d'écrire, ma façon de voir les choses, le fait d'avoir travaillé dans le monde industriel. Tu sais, ça permet aussi d'avoir une vision différente que de tout de suite rentrer dans un milieu artistique dès le jeune âge. Et faire le conservatoire, tout ça. Enfin, je pense que ça aussi, c'est intéressant, mais moi, je n'ai pas eu ce parcours-là. Moi, j'ai vraiment...
C'était quoi le métier que tu faisais pour que tu le kiffes autant ?
Non, ce n'est pas que je kiffais, genre... mais genre, je n'avais pas ce problème de burn-out, quoi.
Ouais.
J'étais... en fait, j'étais... moi, j'ai fait ingénieur télécom.
Ouais.
J'ai commencé ingénieur, après, j'étais chef de projet. Après, plus tu avances, plus tu as plus de responsabilités. Et l'avantage que j'avais et ce que j'aimais dans ce taf, c'est que je bougeais beaucoup. On avait des projets par pays, et du coup, tu partais dans un pays, tu faisais 6-7 mois là-bas, jusqu'à ce que le projet se termine. Après, on partait dans un autre pays. Et ça, j'adorais. Voilà. Sur le terrain, le voyage, le machin. Et c'était cool, tu vois. Mais il y avait cette envie de je veux faire le test au moins. Et dire voilà, au moins je l'ai testé, je reviens au télécom et après bon ça c'était cool, ça marchait bien. J'ai longtemps fait les deux jusqu'au jour où j'arrivais pas à faire les deux télécom et stand-up et voilà. Donc,
après ce qui est cool aussi c'est quand tu fais du stand-up vu qu'à peu près dans tous les pays où tu vas il y a potentiellement des comedy clubs.
Ouais.
Bah mine de rien c'est aussi un lien social. Tu arrives dans un endroit tu connais personne, d'un coup tu montes sur scène, tu fais 2-3 vannes que tu connais un peu. Et puis tu discutes avec les gens, tu pars dans un autre pays, tu refais la même chose, etc.
Honnêtement, c'est vraiment ça. Après, quand je partais même en visite genre touristique, je cherche toujours le comedy club, open mic, machin. Et c'est vrai que c'est... En fait, c'est la façon la plus simple de s'introduire à un groupe de personnes. Tu arrives, tu racontes pendant 10 minutes un résumé de ta life. Et derrière, les gens ont l'impression de te connaître. Donc, c'est vraiment... donc, tu as des potes, tu as des gens qui t'invitent... Et c'est vrai que ouais, ça te facilite beaucoup le lien social. Et si en plus, tu es quelqu'un qui, voilà, comme moi, qui adore les cultures, j'aime m'intéresser aux cultures et aux pays où je vais, bah, c'est juste du bénéf, quoi.
Ouais, ouais, non, je vois très bien. Je voulais aussi qu'on parle du storytelling de LinkedIn.
Ah
forcément, puisque après toutes ces vannes sur la Suisse. Que t'enchaînes, qui fait à peu près, je pense, la moitié de ton passage, j'ai pas compté, mais ça doit être ça.
Ouais, je pense que ça fait 40%, un truc comme ça. Ouais.
Et après, t'as tout un truc où t'expliques que t'as pas besoin de chercher du travail, mais que pour le plaisir, tu réponds à des annonces sur LinkedIn pour voir jusqu'où les gens vont. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, tu l'as déjà fait vraiment ?
Et du coup, quand je suis en Suisse, j'ai beaucoup de temps libre et j'ai développé des jeux pour m'occuper. J'ai un jeu très cool que je vais partager avec vous. Mon jeu est très simple. En fait, je vais sur LinkedIn et je postule à des postes que j'ai pas envie d'avoir. Juste pour faire les entretiens et m'amuser. Parce qu'en fait, quand tu t'en fous du poste, tu peux dire ce que tu veux. Du coup, c'est moi qui prends le contrôle de l'entretien et j'ai fait tellement d'entretiens, j'ai réponse à tout, même les questions les plus complexes. Une des questions les plus compliquées dans un entretien, c'est quand ils te disent « Quelles sont vos prétentions salariales ?» On ne sait jamais quoi répondre. J'ai trouvé la meilleure réponse. Maintenant, je dis « Moi, je veux 10% de plus que vous. » Et après, moi, je pose la question « Vous êtes à combien en ce moment ?» Alors, en général, ils ne répondent pas. Et c'est là où j'enchaîne. Je dis « Voilà, j'ai fait une étude du marché. Vous êtes dans les RH. Vous devriez être en moyenne autour de 250 000 par an. » C'est pas vrai. C'est beaucoup trop. C'est juste pour créer un doute en lui. Je veux qu'il se dise « Ah bon, je dois être à 250 000 ?» Le but du jeu, c'est qu'à la fin de l'entretien, lui aussi, il cherche du travail. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça le but du jeu.
Tu l'as déjà fait vraiment?
Bah, honnêtement, ouais. En fait, le truc, c'est que comme je t'ai dit, au bout d'un moment, je faisais les deux.
Ouais.
Donc, je faisais les deux. Et
ah oui, le stand-up et en même temps le travail.
Donc, ouais. J'ai jamais, en fait, fermé la porte, tu vois. Donc, j'avais toujours ce lien avec le monde du travail. Et donc, au bout d'un moment, quand j'ai arrêté de travailler dans les télécoms, je faisais que du stand-up. Au début, je refusais, tu sais, les offres sur LinkedIn, parce que c'était des chasseurs de tête qui viennent te contacter. Et un jour, je me suis dit, pourquoi tu refuses? Viens voir juste pour voir ce que ça donne. Et je trouvais le jeu intéressant. C'est que je commençais à aller dans les entretiens et tout. Et petit à petit, ça devenait, tu vois, plus j'avançais, plus je voyais aussi. C'était instructif parce que je voyais comment gérer un entretien. Et je me suis rendu compte que, au final, on se mettait trop la pression et qu'on était toujours en mode, nous, on va se plier en quatre pour vous. Alors qu'en vrai, c'est un 50-50. En fait, eux aussi, ils cherchent quelqu'un. Ouais. Et quand j'ai pris, comme je le faisais juste pour le fun, donc tu as plus confiance et tu peux te permettre des choses. Et j'ai remarqué que mec, plus tu avances, plus... en fait, c'est eux qui courent après toi, quoi.
Il y a une autre question qui est dans tous les entretiens, vous la connaissez, c'est quand ils te disent « Quel est votre défaut ?» Alors là, en général, on dit « Je suis perfectionniste », exactement. C'est genre défaut, mais qualité. Et là, il me dit « Non, 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 je veux un truc personnel. » Je suis « Ok, je suis nécrophile. » Mais seulement en dehors des heures de travail. Ça, c'est mon côté perfectionniste sur le timing. En fait, moi, mon but, c'est de les perturber. Une fois, il y a un mec qui m'appelle, il me dit « Bonjour, monsieur. » Je fais « Non, moi, c'est madame. » Et déjà, il fait « Ah, pardon, je suis vraiment désolé. » Et là, tu as une autoroute devant toi. Tu peux demander le salaire que tu veux, les vacances que tu veux. Il va pas oser dire non. Et je suis en train de pousser ce jeu plus loin. C'est maintenant, c'est plus je m'identifie comme il ou elle. Moi, je l'applique au statut social. C'est-à-dire, quand il me dit « Comment voulez-vous qu'on vous appelle ?» Je dis « Moi, je m'identifie comme un patron. Appelez-moi boss. » Voilà, c'est comme ça que je me sens le plus à l'aise.
C'est marrant, donc en fait, c'est pas une vanne à la base, et au fur et à mesure, tu l'as construit en disant, mais là, faut que je tire le fil de ce truc-là.
Ouais, ouais.
Et quand est-ce que tu t'es dit, c'est un passage ?
En fait, c'était vraiment. Parce que les chasseurs de tête, en fait, ils sont. Au bout d'un moment, tu reconnais leur système. Et j'ai reconnu un peu le modèle, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire parce qu'ils viennent tous avec la même chose. Ils t'envoient un bloc. Ils n'ont même pas vu ton CV, ils sont là, on pense que vous êtes le meilleur candidat, machin, machin. Et tu vois qu'il y a un truc intéressant à jouer parce que tu sais qu'il ne sait pas et qu'il a dit ça juste pour que tu répondes. Et ça, il y avait vraiment matière à jouer. Et il y avait une fois un gars avec qui j'ai vraiment fait le jeu et je trouvais que c'était marrant. C'est un mec qui n'admettait pas ses erreurs. C'est-à-dire qu'on fait des entretiens, tu vois, enfin des échanges de mails. Et à un moment donné, par exemple, juste pour donner l'exemple, il me dit, tiens, je t'envoie ce document, remplis-le et tu me le renvoies. Okay. Et en fait, il ne met pas la pièce jointe. Tu vois? Okay. Et donc moi, je réponds juste, voilà, je pense que vous avez oublié la pièce jointe. Et au lieu de dire oui, j'ai oublié, il fait, non, non, c'était un test pour voir. Je tiens vraiment le golden ticket. Et du coup, c'est avec lui que j'ai commencé vraiment à faire plus de jeux, genre donner des salaires de ouf et tout. Et c'est lui un peu qui m'a donné cette, vas-y, creuse. Va au plus loin parce qu'ils ont vraiment des personnages un peu, tu vois. Ils parlent de choses qu'ils connaissent pas, tu vois, les phrases bateaux.
Ouais, bah ouais, je vois bien.
Non, mais c'est... Moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens même avant parce que j'étais dans une boîte, c'est ce qu'on appelait les SS2I, c'est des boîtes d'intérim qui te placent chez des clients grands comptes et tout. Et en fait, c'est très marrant parce qu'au début, quand eux, ils te recrutent, ils essaient de te rabaisser pour te prendre le plus bas possible. Donc, ils sont là, ouais, mais ça, c'est pas intéressant, ça a beaucoup d'expérience. Et après, la même personne doit te vendre au client et tu sais, il te survend. Et là, mais oui, il a beaucoup d'expérience. Je dis, mais attends, tu parles de la même personne, c'était moi depuis tout à l'heure. Donc, tu sais, le monde du travail, il est déjà assez marrant comme ça. Et le fait d'avoir vécu ça, je voulais juste, tu vois, l'utiliser dans mon sketch, quoi.
Mais j'ai remarqué, plus tu les repousses, plus ils sont intéressés. Une fois, il y a une boîte qui m'appelle de Zurich, qui me dit, voilà, on a aimé votre CV, on aimerait passer à l'étape suivante et faire un entretien en face-à-face. Quand est-ce que vous pouvez venir à Zurich ? Je dis, moi, je viens pas. Je suis à Genève, je suis dispo. Tu viens quand tu veux. Et là, il me dit, OK, dans ce cas-là, on fait sur Zoom. Je fais, OK, on fait sur Zoom, mais je veux jouer encore. Donc, je me connecte, mais je n'allume pas ma caméra. Et je veux voir combien de temps je peux tenir sur la caméra. Et au bout de 5 minutes, il me dit, excusez-moi, vous avez un problème avec votre ordinateur ? Je fais, non, pourquoi ? Il me dit, parce qu'il n'y a pas la caméra. Je fais, tu veux la caméra ? Tu veux me voir ? Ok, donc je mets la caméra, mais exprès, je la cadre ici. Et je me dis, avec tout ça, ils vont refuser. Mais avec tout ça, ils m'ont proposé le poste. Et moi, je voulais pas le poste parce que j'avais terminé mon jeu. Et, du coup, je reçois l'offre, je dis, voilà, merci beaucoup pour votre offre. Si vous n'avez pas une réponse de ma part dans les 2 semaines qui suivent, considérez-le comme une réponse négative. Cependant, je vais garder votre email. Et si jamais dans le futur, j'ai des disponibilités, je n'hésiterai pas à vous recontacter. Et s'il y a quelqu'un d'entre vous qui s'oppose à ce que je garde vos données, voici un formulaire à remplir. Et là, je mets un lien vers mes vidéos YouTube et c'est comme ça que j'augmente mes vues. Voilà, merci beaucoup. C'était Warren Michel.
Ce que je raconte est vrai. Après, il y a quelques exagérations, mais l'histoire de Zurich, c'est vrai.
C'est vrai, t'as vraiment envoyé des messages aux gens pour leur
dire. Ouais, il m'a dit, il faut venir à Zurich. Je dis non, je viens pas. Et après, je me suis dit, pourquoi je viendrais?
T'es pas mort de rire quand t'envoies le truc. Tu te dis, putain, c'est...
Non, mais en vrai, c'est, au début, tu penses que ça va... Mais c'est logique, en fait. Pourquoi nous, c'est toi qui cherches un travail, lui aussi cherche quelqu'un, pourquoi ce serait que toi qui serait prêt à partir n'importe où et machin. En vrai, ça m'a juste ouvert les yeux sur le... Ben non, en fait, j'ai pas... Et j'ai même... Et ça, je l'ai pas fait dans le sketch parce qu'on a que 7 minutes, mais tu sais, quand t'arrives à un entretien et ils essaient de voir si t'es le bon candidat et tout,
ouais.
Et moi, je commençais vraiment à faire la même chose avec eux pour voir si c'est la bonne boîte. Et tu sais, je leur sors leur concurrent et dire « Ouais, j'hésite entre vous et machin. » Et ça les énerve. Tu vois, parce que du coup, je commence à... Et la dernière en date que j'ai faite, c'était avec Airbus. Ils commençaient à se la raconter. Nous, on a genre un système de 3 interviews, machin et tout. Et j'ai glissé doucement dans l'interview. Ouais, j'ai vu le dernier crash et tout, machin de Airbus. Et tu sais, le mec, il est devenu. Ouais, non, mais on travaille là-dessus, c'est un système. En fait, ça permet juste de les remettre un peu sur arrête de te la raconter parce que vous aussi, vous galérez. Et voilà, viens, on se parle voilà, d'égal à égal.
Je trouve ça trop bien. Mais du coup, on est d'accord que tu divises ton salaire par 4 en fait. En faisant du stand-up plutôt que...
Stand-up ? Ah non, mais...
plutôt que d'être ingénieur télécom.
Ah ouais, non, mais... non seulement c'est un salaire déjà, quand t'es dans les télécoms, donc ça revient tous les mois, c'est génial. alors que le stand-up, c'est un jour oui, un jour non. Mais en fait, moi, comme j'avais fait les deux, tu vois, pendant un moment, j'ai pas fait... allez, j'arrête tout, je fais du stand-up, je vais dans le vide. Et j'ai essayé de gérer au mieux, tu vois, de pas...
Ouais.
Mais c'est sûr que c'est pas les mêmes revenus. Après, le stand-up, parfois, tu peux avoir, tu vois, une captation, j'en sais rien, un deal avec une prod ou j'en sais rien.
Oui,
en fait, c'est très aléatoire.
Côté un peu plus casino, un peu. Ouais, tu peux rien gagner et d'un coup gagner beaucoup.
C'est exactement ça. C'est que si tu regardes sur une durée de. Après, on a tous l'espoir d'un jour vendre le deal à Netflix, tu vois, 400 millions. Et,
enfin, ouais.
Tu vois. Mais bon.
On n'est pas tous Eddie Murphy.
Pour l'instant, moi, je me base beaucoup sur ça, tu vois. Dans mes projections financières, j'ai une petite case comme ça, genre dans 5-10 ans, avec un gros deal, tu vois, à la Dave Chappelle, et qui rattraperait tout, toutes les années de galère d'avant. Sauf que voilà.
On d'accord. Attend. Et moi, j'aime. Attends, je voulais reparler. J'aime beaucoup l'idée. J'adore parce que j'en ai jamais parlé avec personne. L'idée du fait qu'à chaque fois que tu voyages, tu vas dans un comedy club pour rencontrer des gens. Quoi, c'est limite un speed dating pour toi.
Ah ouais, non, mais de ouf.
C'est en fait, c'est le meilleur speed dating de l'histoire des gens qui voyagent. Quoi.
Mais des gens qui voyagent, des gens même qui draguent. Quelqu'un qui est célibataire. Tu sais, t'es célibataire, t'arrives, t'as un public, il y a des meufs et tout. T'es là, t'es ouais, nanana, tu les séduis de ouf. Et en fait, c'est vraiment tout est à ton avantage. C'est-à-dire que t'arrives, tu fais 10 minutes, tu parles à. Ça dépend de la salle, mais en moyenne, une salle de 150. Mec, c'est incroyable.
Je pense qu'il y a des gens, ils vont écouter le truc, ils vont se dire je vais faire du stand-up. Map, pas parce que ça me fait rien. Mais juste parce que je sais que je vais voyager. Je vais...
Mais il y en a beaucoup qui font ça pour pécho. Hein. Sauf que voilà.
Ça... J'ai une petite question aussi pour toi, c'est. Je veux juste que tu me racontes vite fait ton parcours.
Ouais.
Tout simplement, parce que ça m'intéresse. Je me dis peut-être qu'il y a un truc.
Alors, parcours, moi, j'ai commencé à Montréal. J'ai fait l'école de l'humour, mais en fait, j'ai fait les cours du soir parce que cette école était tellement. Genre, tout le monde en parlait. Je dis, je veux voir ce que ça donne.
C'est pas l'école où il y a eu Roman Fresnel.
Ouais, mais eux, ils ont fait genre le parcours, la vraie école, genre 3 ans de formation.
Ah oui.
Mais
toi, c'était cours du soir.
Moi, c'était cours du soir. Okay. En gros, ça te donne juste une idée de, par exemple, écrire un sketch. Et en fait, en gros, l'école, c'est la rigueur de dire chaque semaine pendant, on va dire, 5 mois. Ouais. Chaque semaine, tu dois écrire un texte que tu présentes devant les autres personnes. Et en fait, cet exercice-là de chaque semaine, tu dois écrire, bah, c'est très intéressant parce que parfois, bah, tu n'as pas d'idée, mais tu es obligé d'écrire quelque chose. Donc, ça te force à aller chercher toujours plus loin. Donc ça, c'était très intéressant. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des plateaux à droite, à gauche, à Montréal. J'ai galéré au début parce que tu vois, les gens ne te connaissent pas, ils ne te laissent pas jouer. Donc, j'ai monté mon propre plateau au Théâtre Sainte-Catherine, que je recommande à tout le monde. Parce que c'est un théâtre incroyable. Et les gens, ils sont super cool. Et ils ont toujours été là, tu vois, pour dire « Ouais, tu as un concert
à Montréal. »
À Montréal, ouais. Ouais. Et c'est une équipe incroyable. Donc, j'ai fait de l'impro là-bas et après, j'ai fait quelques plateaux. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir plus de temps de jeu sur les autres plateaux. Et à un moment donné, ouais, je commençais à
voir. Ça a marché.
Ça a marché. J'ai dit, faut que je me barre. et du coup, je suis parti à Paris. J'ai fait le Jamel Comedy Club. Mais pareil, ça a pris un peu de temps parce que t'as la Deb Jam, t'as les machins, donc ça a pris un peu de temps. Et quand le passage du Jamel est sorti, il y avait, à l'époque, tu vois, ça avait une influence, donc ça permettait de remplir les salles. Donc voilà, c'était cool. Mais après, je suis parti aux États-Unis, donc je l'ai fait en anglais et j'ai fait des soirées en français là-bas, c'était super cool.
Et après, t'es reparti à Genève.
Et après, je suis reparti
à Genève.
Parce qu'il y a eu Trump et je me suis barré. Non. Parce que j'ai toujours gardé un lien avec Paris. En fait, j'ai jamais vraiment quitté Paris à 100%. C'est-à-dire que même quand j'étais à Montréal ou quand j'étais aux États-Unis, j'avais toujours, de temps en temps, je revenais à Paris. Et je trouvais que Genève, c'était un bon compromis pour être pas loin. Mm. Mais il y a un plan pour partir. L'idée, c'est de partir rester sur Paris. Mais pour l'instant, je suis toujours à Genève.
Ah, tu veux quitter une vie cool de Genève pour aller
Ouais, mais c'est pour ça que je traîne des pieds, quoi. Mais Paris, elle est incroyable pour le travail. C'est-à-dire que tu peux jouer tous les soirs et tout. Je pense qu'il n'y a aucune ville comme ça francophone, ouais. Mais,
Et donc, le stand-up que toi, tu fais et que tu as développé au fur et à mesure de ces années, au final, il est très stand-up. Tu n'as pas envie d'artifice. Tu ne joues pas vraiment de personnage. Tu ne joues pas vraiment de... Tu vois.
Sur mon spectacle, j'ai un instrument.
C'est quoi?
C'est une basse africaine, okay, qui s'appelle Gumbri. Mais ça, je le garde principalement pour le spectacle. Parce que j'aime bien que les gens viennent découvrir autre chose. Après, je sais pas faire, tu vois, les personnages un peu, tu vois, très développés ou. Dans le contexte de l'impro, j'arrive à le faire, mais dans le contexte du stand-up, je suis resté avec mon personnage un peu qui raconte des histoires inspirées de la vie réelle. Mais dans l'impro,
d'observation, quoi.
Ouais, c'est plus ça. Et le fait d'avoir voyagé, ça m'a forcé aussi d'essayer toujours de trouver des angles que je peux réutiliser dans un autre pays. Ouais. Et du coup, tu vas vers les choses les plus basique, relations hommes-femmes, le travail.
Ouais, pouvoir comparer, pareil, pour pouvoir mettre le point sur ce qui est un peu absurde et ce qui est plus trop vu par la culture.
Ouais, et parce que l'actu, ne marche pas partout. Ouais. Donc je fais aussi beaucoup d'actu, mais dans chaque pays. Par exemple, quand je fais la France, c'est là où j'ai le plus de facilité à parler d'actu. Mais quand j'étais aux États-Unis, je parlais de Trump, des élections. Mais il y a des blagues que tu peux parfois ramener, mais d'autres qui ne marchent pas parce qu'il faut vraiment connaître le maire de New York, le machin. Et ici, même si tu connais, en fait, c'est très loin pour avoir la référence, le scandale ou le machin. Ouais. Donc, c'est compliqué de faire un truc d'actu qui marche partout, quoi.
Ouais, normal. Bah, écoute, merci. J'ai rien de plus à dire, mais c'est juste que... je trouve ça super. J'ai juste un dernier truc à te demander, c'est que j'aime bien finir les podcasts avec un artiste sur scène en audio qui serait choisi par l'invité, donc que tu choisirais toi. C'est pas forcément une pub ou quoi, c'est quelqu'un que t'aimes, un passage que t'aimes, quelqu'un que t'aimes, peu importe.
Ah, c'est très compliqué, hein, parce que moi, vraiment, j'aime beaucoup de personnes. Est-ce que c'est un récent passage ou...
Ça peut être un passage de cette année.
Je pense que si on va sur cette année... J'aimerais vraiment passer sur Thomas Wiesel parce que cette année, il a fait un passage test Et je trouve ça tellement fort de d'écrire et de le tester à Montreux. Et en plus, c'est iconique pour moi. Montreux, c'est un peu, tu sais, la Suisse, et c'est Thomas Wiesel. Après, j'aurais pu choisir plein d'autres artistes, donc c'est pas, j'ai pas envie que les autres se vexent.
Non, mais Thomas, c'est intéressant, c'est vrai, parce qu'il avait ce truc où.
Mais cette année, ouais.
Sur Jason Brokers, le gala de Jason Brokers, qui était le gala stand-up où tout le monde venait avec du matériel maîtrisé, lui a accepté de faire un truc qui était écrit la veille, quoi, ou en tout cas la semaine d'avant. Dans des conditions de réel de stand-up pour pouvoir montrer aussi au public qu'est-ce que c'est que de roder quelque chose, qu'est-ce que c'est que de roder les vannes. Donc il y avait tout un passage qu'il a fait là-dessus et qui est effectivement pas mal. Et quand t'aimes bien le Comedy Club, c'est marrant de voir ça sur des grosses scènes qui sont pas
bien sûr. Et surtout qu'il a fait une blague que je trouve très intéressante, c'est qu'il dit d'habitude on teste dans les petits clubs et après on va dans les grands. Et lui et moi je fais l'inverse. Et en fait il a fait tout un truc. Mais l'avantage avec Thomas Wiesel, c'est que même quand il te parle d'un truc local suisse, il arrive à le rendre un peu international et que même si tu connais pas Meudon ou j'en sais rien, enfin tu vois le lieu dont il parle, tu comprends en fait la vanne sans connaître le lieu, quoi. Et je trouvais ça fort et c'est donc voilà, je pense que ça résumerait bien Montreux de cette année pour moi.
Merci Marie.
Merci.
Bonsoir. En fait, ce qui s'est passé, je vous explique. Jason Brokers m'a appelé quand il a su qu'il avait son gala et il m'a dit « J'aimerais transformer l'auditorium Stravinsky en comedy club. » Et dans les comedy clubs, bah, y a des humoristes qui viennent tester des blagues, donc je cherche quelqu'un qui viendrait tester des blagues dans mon gala. Là, tu veux que je fasse des blagues que j'ai jamais essayées devant 1800 personnes, filmées pour des millions d'autres personnes. En fait, tu cherches quelqu'un qui veut saboter sa carrière. Je suis chaud, c'est quand ? Donc voilà, j'ai pris mes notes. Moi, je vais utiliser ce tabouret parce que il est sur scène depuis le début de la soirée, il sert pas à grand chose. Un peu comme l'orchestre. Ce qui les vexe le plus, c'est que je les ai appelés un orchestre. Ah, moi, je m'en bats les steaks ce soir, je fais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Normalement, tu testes dans des petites salles, tu prends ce qui marche, tu joues dans un gala de Montreux. Moi, je teste dans un gala de Montreux, puis ce qui marche, je sais pas, je vais jouer la semaine prochaine dans un caveau à Moudon. Enfin, moi, j'ai craqué, je sais pas ce que je fais là, mais c'est de l'art contemporain. Moi, là, je suis dans le dadaïsme, je sais pas. Bon, en même temps, Montreux a contribué à lancer ma carrière. Peut-être que ce soir, on boucle la boucle. Hein, enfin, lancer ma carrière, hein. Pas lancer très loin non plus. Hein. Moi, je fais carrière en Suisse romande. Moi, j'ai une carrière, je me déplace une heure dans n'importe quelle direction, on sait plus qui je suis, quoi. Moi, ma carrière, c'est particulier. Partout où je joue, je capte presque le Wi-Fi de chez moi. Le mieux, ce serait que je airdrop mes vannes, quoi.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt. Donc profitez-en pour aller le voir en vrai. C'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, bah, je vous remercie vraiment pour votre fidélité. Et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.